Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour à tous, nous sommes vendredi 26 mai et vous écoutez l'émission Au ras des rues sur Radio Kaléidoscope. Alors Au ras des rues, c'est l'émission qui vous fait prendre de la hauteur. Enfin, on l'espère. Et dans l'équipe, eh bien, autour de la table aujourd'hui, Marie-France.
Bonjour.
Benjamin.
Bonjour.
Donc notre invité, Antoine Gontier de l'Alliance citoyenne.
Bonjour.
Et bien sûr, Yannick à la technique pour cette émission. Voilà, alors vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site du Crieur de la Villeneuve, www.lecrieur.net, et également nous écrire si vous avez des recommandations à notre mail auradesrues@lecrieur.net, et enfin également sur notre page Facebook, vous pouvez nous laisser des commentaires auradesrues-rks97fm. Cette émission sera rediffusée mercredi prochain et le vendredi et mercredi suivant. Voilà. Donc une émission toutes les deux semaines. Voilà, et bien pour l'agenda, Benjamin, qu'est-ce que tu nous donnes comme rendez-vous ?
Alors pour cet agenda du Crieur de la Villeneuve, on commence avec le lundi 29 mai, c'est l'Université populaire de la Villeneuve qui revient, avec une soirée décryptée la sécurité sociale. Donc c'est le second cycle de l'Université populaire de la Villeneuve. Le premier c'était les rencontres pour comprendre, et le deuxième s'appelle donc décrypter. La sécurité sociale, donc pour cette séance-ci, sera invité Michel Dreyfus, qui était un historien. Cette séance aura lieu donc le 29 mai à la Maison des habitants des Baladins, c'est au 31 place des Géants, c'est à partir de 18h et puis c'est gratuit. On enchaîne avec le vendredi 2 juin, l'Espacissant, donc le théâtre du quartier de la Villeneuve, organise une table ronde sur l'ancrage de cet équipement culturel dans le territoire. Ça fait suite à tout un tas de débats sur le quartier, sur la place de l'Espacissant dans le quartier, et puis sur l'ouverture ou non de cet équipement culturel aux populations qui habitent le quartier. Donc ce moment d'échange sur l'Espacissant aura lieu le vendredi 2 juin de 18h à 21h, donc à l'Espacissant, c'est situé au patio 97 Galerie de l'Arlequin, et bien sûr l'accès est libre. Et puis pour finir cet agenda, vendredi 9 juin, il y aura un tournoi de Go. Donc on avait reçu quelques pratiquants de Go dans cette émission, notamment Ismaël, un jeune joueur de Go. Et donc un tournoi de Go était organisé vendredi 9 juin à l'Accordé, donc c'est au 47 Galerie de l'Arlequin. Pour ceux qui ne savent pas, il y aura aussi une initiation à ce jeu. C'est un tournoi qui réunira aussi les écoles et le collège, mais c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Donc c'est donc à l'Accordé de 16h à 18h vendredi 9 juin.
Voilà. Alors Marie-France, quelques petits rendez-vous de plus ?
Un petit rendez-vous, on prend un peu d'avance pour annoncer la fête de quartier Vigny-Musset Village Olympique qui aura lieu le samedi 17 juin. Donc comme d'habitude, la fête de quartier, le matin, c'est sur le Village Olympique avec une brocante. Alors là, ça doit commencer à 6h30 le matin. Et puis des animations diverses, un repas républicain, je crois qu'on l'appelle comme ça, le forum des associations, je pense qu'on aura une présence de Radio Kaléidoscope, j'espère. Et puis l'après-midi, des animations diverses sur le parc des romantiques, sur Vigny-Musset. Et cette année en particulier, il y aura une ferme avec des animaux. C'est dédié aux enfants l'après-midi, des diverses animations, voilà.
Merci Marie-France. Alors, Benjamin, je te redonne la parole sur l'actualité du Crieur. Qu'as-tu à nous raconter ?
Qu'ai-je à vous raconter ? Eh bien, qu'hier, jeudi 25 mai, il y a eu un incendie au 110 Galerie de l'Arlequin. Un incendie qui s'est déclaré vers 18h30. Les pompiers sont intervenus pour éteindre cet incendie dans un appartement. Il n'y a pas de victimes à déplorer. Et puis, pour rappel, il y avait déjà eu un incendie dans cet immeuble-là en 2011, où là, cette fois-ci, c'était plusieurs appartements qui avaient brûlé. Et puis, on va faire un retour sur le repas du vin. Donc, le 20 mai, il y avait un repas de soutien aux habitants du vin Galerie de l'Arlequin. Le vin Galerie de l'Arlequin, c'était cet immeuble situé au nord du quartier qui est promis à la démolition dans le cadre de l'ANRU 2, donc le second plan de rénovation urbaine. Le but avancé par les architectes et les urbanistes pour cette destruction, c'est de créer une ouverture sur le quartier et faire baisser le nombre de logements sociaux sur la Villeneuve. Alors, pour rappel, le 10-20, donc le 10 Galerie d'Arlequin, le 20 Galerie d'Arlequin, ont été rachetés par un bailleur qui s'appelle SIC Habitat, qui est une filiale du groupe SNI, qui est elle-même une filiale de la Caisse des dépôts.
Donc qui finance la construction du logement social.
Tout à fait. Et donc ce bailleur SIC Habitat a racheté le 10 et le 20 en 2014 à la SDH, donc la Société Dauphinoise de l'Habitat, qui est un des principaux bailleurs du quartier. Et donc les habitants luttent contre la démolition de leur immeuble alors qu'on leur promet la rénovation depuis au moins 10 ans. Donc plusieurs organisations, plusieurs associations, plusieurs collectifs de soutien aux habitants avaient appelé à un repas de soutien aux habitants le samedi 20 mai. Et puis surtout, cette démolition, ça rappelle un mauvais souvenir aux habitants, puisqu'on a déjà connu la démolition du 50 Galerie de l'Arlequin pour les mêmes raisons, c'était en 2013. Donc là, à ce repas de soutien, une cinquantaine de personnes étaient présentes. Et puis, il y avait aussi de nombreux journalistes qui suivent un peu le sujet. Pour l'instant, donc, les habitants contestent cette démolition, souhaitent plutôt que leur logement soit rénové. Et puis, ils protestent aussi contre les conditions de relogement pour l'instant, puisque le bailleur SIC Habitat n'a toujours pas signé la charte de relogement avec les locataires. Et fait un peu les relogements, organise en fait la vacance de son immeuble. Pour l'instant, il n'y a plus que 60 appartements occupés sur les 191 qui concernent le 10-20. Puis juste pour finir, j'ai croisé à ce repas partagé, il y avait Michel Destaux, donc ancien maire et toujours député du coin, qui était présent pour ce repas, vu qu'on est en pleine campagne législative, et je lui ai demandé à ce qu'il était venu en soutien aux habitants du 10-20. Il m'a dit oui, que lui, de toute façon, avec sa municipalité, ils avaient voté pour la réhabilitation de ces logements. Et je lui fais remarquer que c'est grâce à lui, en plus, que c'est SIC Habitat qui avait racheté le 10-20, qui maintenant souhaite la destruction de son propre immeuble. Alors il me dit, la vente et l'achat par SIC Habitat, c'est pas moi, c'est la nouvelle municipalité. Alors certes, cette vente a eu lieu en juin 2014, donc ça fait la municipalité Piolle était installée depuis un mois, mais quand même, ça faisait 2 ans avant que les négociations étaient en cours. Donc c'est une certaine façon de présenter la réalité, je trouve.
En tout cas, le débat autour du 10 et du 20 est très marqué par l'abandon qu'a fait la SDH vis-à-vis des habitants et de l'entretien de l'immeuble. Et je pense que c'est un des points qui rend très difficile le fait de voir d'un bon œil un changement, en fait. Donc voilà.
Oui, les habitants protestent d'ailleurs contre les charges trop élevées qu'ils ont dû payer, alors qu'il n'y a eu quasiment aucun entretien qui a été fait au 10-20.
Merci Benjamin. Alors, on va passer à un enregistrement des petits journalistes de Radio Villeneuve qui ont interviewé cette fois-ci Evelyne Desportes, qui est la directrice de l'école des Trembles, une des écoles du quartier de la Villeneuve, côté Place des Géants.
Plutôt. Et qui est aussi une tenniswoman accomplie et qui est la directrice, la présidente du tennis club Villeneuve.
Très bien, merci pour cette précision. Alors, on écoute le reportage de Radio Villeneuve.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
J'aimerais entendre que tout le monde aime la Villeneuve et qu'on y est bien à la Villeneuve.
Marhaba bikoum à la Radio Villeneuve.
Des interviews concernant les habitants, en particulier au niveau de la propreté.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Et je sais que les gens ils ont peur de la Villeneuve, donc j'aimerais que grâce à la Radio Villeneuve, ils aient moins peur, donc on leur parle des bons côtés de la Villeneuve.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Des nouvelles du collège déjà, que vous parliez de la vie d'un collégien de la Villeneuve dans son quartier.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Mais c'est très bien ça.
Et bienvenue sur Radio Villeneuve.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Bienvenue sur Radio Villeneuve.
Bienvenue sur le radio, comment il s'appelle ?
Villeneuve. Radio Villeneuve reçoit la directrice, Madame Evelyne Desportes, de l'école primaire Les Trembles à la Villeneuve de Grenoble.
Bonjour et merci d'être présente parmi nous.
Merci, bonjour en tout cas de m'accueillir.
Pouvez-vous nous présenter rapidement l'école des Trembles ?
Alors l'école des Trembles est située dans le quartier de la Villeneuve, à l'opposé du collège. Et c'est une école élémentaire, c'est-à-dire qu'elle ne comprend que des classes du CP au CM2. Au total, il y a 118 élèves.
Depuis combien de temps l'école des Trembles existe-t-elle ?
Une quarantaine d'années.
Combien d'élèves y a-t-il d'enseignants ?
Il y a 118 élèves et 6 enseignants.
Vous êtes directrice depuis combien de temps ?
Je suis directrice depuis 23 ans.
Et quel a été votre parcours ?
Mon parcours a été très diversifié. À la sortie du lycée, donc, j'ai été éducatrice, j'ai fait des études de psychologie. Ensuite, j'ai été assistante de direction et j'ai passé le concours de l'éducation nationale pour être enseignante et pour être enseignante depuis 27 ans maintenant.
Avez-vous toujours travaillé à la Villeneuve ?
Pas tout le temps. J'ai également été enseignante au collège Munch en SECPA.
Avez-vous des autres liens avec le quartier que celui de votre métier ?
Oui, j'habite le quartier. Je fais partie du conseil d'administration de la maison d'image. Je suis aussi dirigeante d'une association dans le quartier qui s'appelle le Tennis Club Villeneuve. Et je fais partie également du comité départemental UCEP qui s'occupe des manifestations sportives dans les écoles.
Et en quoi consiste également le travail d'une directrice d'école ?
Deux axes, un axe administratif, on doit remplir beaucoup de papiers. Surtout, par exemple, on doit inscrire les enfants en sixième. Et puis d'un autre côté, tout ce qui est pédagogique, c'est-à-dire faire en sorte que l'on fasse le maximum pour que les enfants apprennent le mieux possible et le plus de choses possible. Donc un rôle avec les autres enseignants de se mettre d'accord pour qu'on arrive à arriver à un tel objectif.
Votre école est connue pour être une éco-école. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'on essaye dès le plus jeune âge que les enfants soient très sensibles à l'évolution de la planète, on va dire, et que par là même, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour agir. Ça va du tri des déchets, la réalisation d'un compost dans l'école, d'un jardin potager, faire de la culture hors sol, améliorer la biodiversité en plantant des arbres qui attirent les abeilles, par exemple.
Pourquoi c'est important de sensibiliser les plus petits sur le respect de l'environnement ?
Pour qu'ils aient de bonnes habitudes, on va dire. Et puis, parce que c'est des actes de tous les jours qu'il faut faire. Donc, il vaut mieux commencer tout petit.
Quels sont les autres projets pour votre école ?
Alors, les projets dans l'école, ils sont définis par rapport aux projets d'école, c'est-à-dire les axes que l'on veut pour travailler en priorité avec les élèves. Donc, c'est défini en conseil des maîtres. Et c'est très, très varié. Ça peut être... On fait beaucoup de classes nature. On amène beaucoup les enfants à s'exprimer oralement. On a participé à l'action Compte avec le collège cette année. On a eu fait des classes olympiques. L'année dernière, on travaillait... On a pour sortir les enfants du quartier, donc une classe qui intégrait 4 écoles de toute l'Isère. On essaye de faire beaucoup de projets qui amènent les enfants à connaître d'autres choses que le quartier.
Le thème de la semaine de la presse cette année est « D'où vient l'info ?» Alors vous, par exemple, en tant que directrice, comment choisissez-vous les orientations de travail de votre école ?
Alors moi, c'est même plus général que ça. Je dirais que par rapport à ce qu'est l'information, ça se travaille tout le temps, toute l'année. C'est la semaine de la presse, c'est un moment pour attirer l'attention. Donc on a participé en écrivant un article dans le mini-journal de la Villeneuve. Là. Mais nous, c'est par rapport à un thème de travail, on travaille sur tous les axes d'info. Ça peut, que ce soit Internet, que ce soit la presse, on cherche toutes les façons d'avoir des informations pour que les enfants se rendent compte qu'il existe beaucoup de façons d'avoir des informations.
Par exemple, qu'est-ce que vous faites comme action avec les enfants ?
Alors, si c'est toujours par rapport aux médias, ta question ?
Oui.
D'accord. On a beaucoup travaillé avec la radio. Alors, je suis très contente que maintenant, il y ait une radio... au Collège Villeneuve, puisque j'avais été amenée à travailler avec une radio de quartier qui s'appelle Kaléidoscope, parce qu'il n'y avait pas de radio à l'époque ici. Donc on a travaillé son travail le plus possible sur justement s'exprimer oralement, donc comme la radio. On fait des articles dans le cadre du journal, on envoie des messages à d'autres écoles lorsque l'on fait des correspondances scolaires. On est amené à faire un peu de critique des articles en histoire aussi. On voit les différents articles qui ont été faits sur la même période par des gens différents qui ont écrit. On apprend à être critique envers un écrit.
Un petit mot pour la radio, Evelyne Desportes.
Eh bien, plein d'encouragement et je vous souhaite longue vie.
Merci. Merci beaucoup pour cette interview.
Et c'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, donc c'était Evelyne Desportes, la directrice de l'école des Trembles. Alors, on va faire une petite pause musicale avec donc une sélection aujourd'hui par notre auditeur Laurent, donc qui nous envoie And I Won't Die, une chanson composée en 1967 de Laura Niro, auteur, compositeur, interprète et pianiste née dans le Bronx à New York en 1947. C'est une artiste au très grand talent méconnu. Ses chansons connurent le succès chanté par d'autres artistes comme Barbara Streisand. Et du coup, elle fut au répertoire du groupe Blood, Sweat and Tears et connut un succès considérable dans les années 70. On écoute.
And when I die, and when I'm dead and gone, there'll be one child born and a world to carry on, to carry on. Time be near. If it's peace you find in dying, when dying time is here, just bundle up my coffin, cause it's cold way down there. I hear that it's cold way down there, yeah, crazy cold way down there. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born and a world to carry on, to carry on. My troubles are many, they're as deep as a well. Pray there ain't no hell. Swear there ain't no heaven. And pray there ain't no hell. But I'll never know by living. Only my dying will tell. That only my dying will tell you. Only my dying will tell. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born and a world to carry on, carry on. Give me my freedom for as long. Living is to have no chains on me. All I ask of living is to have no chains on me. And all I ask of dying is to go naturally. Only wanna go naturally. Don't wanna go by the devil. Don't wanna go by the demon. Don't wanna go by Satan. Don't wanna die on easy. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born. There'll be one child born when I die. 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 There'll be one child born when I die.
C'était And When I Die de Laura Niro. Alors, vous êtes toujours sur l'émission, vous écoutez l'émission Au ras des rues, l'émission qui vous ferait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope. Et nous sommes avec Marie-France qui va nous faire un petit compte-rendu de l'AG de l'Union de quartier Village Olympique et du conseil municipal,
oui,
qui a notamment parlé des bibliothèques,
voilà,
sujet très pressant.
Le premier point de l'ordre du jour donc, de ce conseil municipal du lundi 22 mai, c'était la réception des pétitionnaires de la votation citoyenne qui réclamait la réouverture des bibliothèques Alliance, Auclin et Prémol. et qui, avec des professionnels correspondants, puisque ces trois bibliothèques avaient été, la décision avait été prise de les fermer dans le cadre de la, du plan de sauvegarde des services publics. Donc ça fait déjà 11 mois, plus de, oui, presque un an, qu'elle avait été annoncée. Donc il y a eu une lutte qui a démarré dans le quartier, dans tous les quartiers où se trouvaient ces trois bibliothèques. Il y a un collectif des bibliothèques avec les bibliothécaires, des enseignants, des unions de quartier, les syndicats, voilà, qui s'est mobilisé et qui a lancé, avec la procédure que permet la mairie, la municipalité qu'elle a mis en place, donc une votation citoyenne. Et une fois que cette pétition a recueilli, elle devait recueillir 2000 voix pour passer en conseil municipal. Donc là, il y a eu plus de 4000, je crois, signatures. Donc voilà, c'était prévu de discuter de ce problème à ce conseil municipal. Alors, il y avait eu une ou deux réunions préalables avec les représentants du collectif pour préparer cette réunion, et on avait eu une ouverture par rapport à un changement de position. Oui, on peut appeler ça un changement de position de la mairie vis-à-vis de ces trois bibliothèques. Voilà. Ce conseil municipal, comme les autres depuis presque un an, hein, s'est tenu sous protection de la police. On avait demandé la retransmission dans le salon d'honneur de la municipalité, de la mairie, juste à côté de la salle du conseil, pour les personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans la salle, puisqu'il n'y a qu'une cinquantaine de places qui est réservée au public. Ça a été refusé pour des raisons de sécurité, puisque la police, de toute façon, était à l'extérieur de la mairie, sur le parvis. Et bon, il y a eu une retransmission proposée à la Maison des Associations qui avait été annoncée par la presse. Et dans la salle de 160 places, je crois que pour tout public, il y a eu une seule personne. Voilà. Donc, les bibliothécaires étaient là devant les barrières de la police. Hein, cette fois-ci, chaque fois, elles inventent un scénario différent. Cette fois-ci, il y avait des tables, tout un accueil avec des beaux verres et des... pas en cristal, mais presque. Hein. Et elles offraient un pot de bienvenue pour célébrer l'ouverture des négociations. Voilà, un peu plus sérieuse que les autres fois. Voilà. Donc, concrètement, il y a eu pratiquement presque 3 heures de débat autour des questions des bibliothèques. Et donc, je pense qu'il y a eu quand même tous les groupes politiques se sont exprimés. Ça a été un débat assez riche, il faut dire. Hein. Et la proposition qui a été faite par la voix de Madame Corinne Bernard, qui est l'adjointe à la culture, c'est des propositions de maintien d'une part de la bibliothèque de l'Alliance, avec une baisse d'effectifs, mais tout ça n'a pas été abordé à ce moment-là, et l'ouverture sur Prémol et sur Auclin, qui sont donc deux bibliothèques d'enfance et qui ont été complètement vidées de leur collection et fermées depuis l'an dernier. Et donc, une réouverture de ce que Corinne Bernard appelle une présence de la lecture publique avec des collections et avec des professionnels, voilà, mais à articuler avec d'autres activités qui pourraient avoir lieu sur les mêmes lieux. Voilà. Donc, c'est cette ouverture qui a fait dire que ça pouvait être une première victoire, en tout cas un premier changement d'attitude de la municipalité. On peut noter parmi les interventions, donc tous les groupes politiques ont participé, ils ont eu deux fois un tour de parole. On peut signaler que Guy Tuchère, pour le groupe Ensemble à gauche, qui est donc un groupe qui s'est séparé de la majorité actuelle, justement sur le problème des bibliothèques et de la diminution de pas mal de services publics de la municipalité pour des raisons budgétaires. Il a contré un petit peu l'argument qui disait on n'a pas le choix, l'État nous impose des réductions et on ne peut pas faire autrement. Et il a fait état d'un autre scénario qui avait été prévu qui avait été donc prévu comme possible par la majorité et qui montrait qu'un autre choix aurait été possible avec moins de réductions dans les fonctionnements des services publics et peut-être moins de réserves d'argent pour les en fin de mandat comme ce qui a été finalement choisi. Voilà. Alors le collectif, bon, par la voix de trois représentants qui étaient là, a salué donc l'ouverture, mais tout en soulignant qu'on allait être vigilant et que on n'a pas du tout discuté ni de moyens, ni d'horaires, ni de postes, ni de nombre d'équivalents temps plein de professionnels. Voilà. Donc, il y a des négociations qui vont continuer. On s'est donné un mois de plus de discussion et le point sera refait au prochain conseil municipal, au mois de juin, normalement. Voilà. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y aura dans les différentes bibliothèques, je ne sais pas si on peut les appeler bibliothèques encore, mais un comité de suivi auquel participeront les usagers. On a annoncé donc aussi que par rapport au village olympique en particulier, on aura, pour montrer qu'il y a une certaine attention qui est portée, une exposition du musée Hors les Murs qui se fera au village olympique en 2018. Voilà. Donc le collectif des bibliothèques reste vigilant et va ainsi que d'ailleurs l'intersyndicale des bibliothécaires et va essayer d'obtenir un peu plus parce qu'il a été question notamment d'une demi-journée d'ouverture par semaine sur la bibliothèque Prémol. C'est très peu, mais voilà, la négociation est ouverte en tout cas. Et puis, un deuxième point pour le mercredi 24 mai, c'était l'Assemblée générale de l'Union de quartier de Vignes-Musset, village olympique Vignes-Musset. Donc, comme tous les ans, il y a une première partie, l'Assemblée générale en proprement dite, et ensuite une rencontre avec les élus, donc le maire, il y avait le maire et plusieurs élus, présence aussi de plusieurs élus de l'opposition. Voilà, donc on a évoqué les problèmes de tranquillité publique, les problèmes d'animation de quartier. Deux événements ont été importants cette année dans le quartier. C'était d'une part, il y a eu l'incendie du squat des demandeurs d'asile dans les bâtiments du Crous. Et l'autre chose, c'était toute la lutte qu'il y a eu depuis un an pour le maintien des bibliothèques, puisque dès qu'on a su l'annonce de cette fermeture, il y a eu toute une lutte qui s'est mise en place, d'abord sur le village olympique. En plus, le lien a été fait avec... ça, je pense qu'on peut le souligner, que les trois bibliothèques restent solidaires et la défense des trois bibliothèques est solidaire. C'est pas chacun dans son coin, quoi, pour être plus fort. Et donc, il y a eu une première victoire, on peut dire, hein, mais le combat continue. Voilà, on a constaté que le climat par rapport à la tranquillité publique occupait une bonne partie. Cette partie de la discussion avec les élus était ouverte et beaucoup de gens du quartier venaient pour souvent les différentes plaintes qu'ils avaient vis-à-vis de la mairie ou vis-à-vis de comment les choses se passent dans le quartier. Et cette fois-ci, il y a eu un petit peu moins de... Le thème de la sécurité a été moins important et il semble que pour ce qui est des incivilités, ça avait baissé un petit peu sur le quartier. Voilà.
Très bien, merci Marie-France. Et puis si vous voulez réécouter les émissions, par exemple, où on a invité les personnes qui sont mobilisées sur les questions des bibliothèques, vous pouvez toujours en podcast sur le site du Crieur de la Villeneuve, www.lecrieur.net, retrouver toutes ces émissions où on en a déjà parlé.
Oui, je rajoutais justement par rapport à cette réunion du conseil municipal que, comme d'habitude, donc ils sont disponibles en vidéo tout l'enregistrement du conseil municipal, donc vous pourrez voir tout le débat, donc les arguments du collectif des bibliothèques et puis des différents groupes et des.
C'est mieux que l'Assemblée nationale.
Ah, ça a été un bon débat hein, pour presque 3 heures hein, de débat. C'est assez ça valait la peine vraiment le thème. tout le monde a défendu les bibliothèques.
C'était beau.
Du Front National jusqu'à Ensemble à gauche, voilà.
Merci Marie-France. Alors, on va faire une deuxième pause musicale avant de retrouver notre invitée qui s'impatiente sur sa chaise. Donc, nous allons écouter une chanson qui s'appelle « Couscous ». C'est une chanson composée en 2003 et interprétée par Richard Bonnat, musicien camerounais qui commença sa carrière à Paris en tant qu'instrumentiste. Il a notamment accompagné Jacques Higelin, voilà, et d'autres encore. C'est un formidable bassiste recherché par tous les grands musiciens de jazz. On écoute « Couscous » de Richard Bonnat.
Baleno nae disi bobi mundumbu Tambula jibaleno nae kimabobo mundumbu Lambola jibaleno nae disi bobi mbale Bana tambula jibaleno nae songa simwele kokomo Wangubu Ngasula wasena bebe Tiwala la vila Bukatela wabane Banaba wonja beno nae Paima tu kwa mundungu Uise uba mungeje Na lene nimene labo Titi body wo, look at them up on my back. No teme tongo tilo wobon yunga majiba. Look at him up on my back. No timbi katama boma lalo. No teme tete na munja lo wobon yunga majiba. La kwana mundumbu, no mene veda nanje. Tembula jibale no nae. Sima kata mungongi Bukati di body wo Lukata mabo maba Luteme titi na munja Luwobo nyonga majiba Lukati mabo maba Lutimbi kata mabo malalo Ebe na tena moindu Luwobo nyonga majiba Ngolo wakanyu, emende no wabi no punyamene Dialo, wende kabailo Ah, wende talala Dialo, wende kabailo Ito songo bailo, unda tano konda. Salo ni ya itu miese. Jimuki leno batu na wudu, tu, nabila.
Me, on dit comment, papa?
Dialo, wende ka bailo. Ah, wende ta la la. Dialo, wende ka bailo. Ah, wende ta la la.
Voilà, c'était Couscous de Richard Bonnat. Vous êtes toujours sur Aura des rues, sur Radio Kaléidoscope. Et donc aujourd'hui, nous avons un invité, Antoine Gontier, qui est organisateur salarié de l'Alliance citoyenne. Alors, on t'a invité aujourd'hui pour nous parler de la mobilisation des habitants du village olympique et comment voilà, vous travaillez ensemble sur différents points, notamment un qui nous intéresse, c'était le CODAS. Mais peut-être que tu peux nous brosser un petit peu un tableau de l'actualité de l'Alliance. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, voilà, pour nos auditeurs?
Très bien.
Oui, pardon, on avait invité Pauline au début, au démarrage de l'Alliance sur le... le quartier. Donc, ça fait déjà quelques temps, hein, au début de...
Au démarrage de notre émission.
Oui, 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 voilà. Donc, ce serait bien de refaire un petit point sur savoir où s'en est avant de parler des choses qui nous concernent précisément sur le quartier.
Très bien. Eh bien, d'ailleurs, Marie-France, tu pourras compléter, puisque tu es très active dans les réunions de l'Alliance citoyenne au Village Olympique et maintenant dans les réunions interquartiers sur la question du CODAS et de la préhension spécialisée. Mais donc aujourd'hui, l'Alliance citoyenne, effectivement, donc, c'est une organisation qui rassemble des habitants de l'agglomération grenobloise dans plusieurs quartiers, Abbaye, Jouot, Village Olympique, Tesserre, Vieux Centre-Ville, Almatricloître, et puis maintenant depuis 4-5 mois à Saint-Martin-d'Hères, dans le quartier Renaudy-Chamberton.
Donc les quartiers populaires.
Exactement, plutôt les quartiers populaires. Et l'idée de départ, c'était d'aller dans les quartiers où il y avait peu de dynamisme associatif. C'est pour ça qu'on n'a pas commencé par la Villeneuve ou par Mistral, parce qu'il y avait déjà beaucoup de mobilisation en cours et que ça nous semblait plus opportun de commencer ailleurs. Voilà, le principe c'est toujours le même, c'est de se dire que si on est tout seul face à des galères de logement, des injustices qu'on constate par rapport à une école dans le quartier qui ferme, ou des réseaux de transport qui sont mal distribués, ou tous les autres problèmes qu'on peut avoir, si on est tout seul dans son coin, on est plutôt dans l'impuissance et dans l'incapacité de faire bouger les choses. Si on se rassemble et qu'on essaie de mettre nos problèmes en commun, nos envies d'agir et nos méthodes d'action, on peut être plus fort pour aller interpeller les différents décideurs politiques. Voilà, ça fait écho à ce que racontait Marie-France sur la campagne sur les bibliothèques actuellement.
Merci. Et c'est dans l'actualité, peut-être un élément autre que le Village Olympique.
Alors, une grosse actualité des dernières semaines, ça a été une campagne des locataires du quartier Chamberton, au 22 rue Garcia Lorca, qui sont en fait des locataires, non pas d'un bailleur social, parce que ça a été beaucoup parmi des campagnes menées par l'Alliance citoyenne sur les bailleurs sociaux. Là, cette fois, c'est une propriétaire privée, Madame Prêtre, qui habite à Coran, entre Coran et la Suisse, et qui possède plusieurs immeubles dans le quartier Chamberton, qui sont des immeubles dans lesquels les travaux n'ont pas été faits depuis plus de 20 ans. Il y a des déjections de pigeons dans les allées, sur les balcons collectifs. Il y a des travaux intérieurs d'isolation, de canalisation d'eau, etc., qui n'ont jamais été faits, qui causent beaucoup de soucis de santé, et voilà, des problèmes pour les habitants, des moisissures, etc. Et donc là, la dernière action en date, donc la semaine dernière, les habitants, après plusieurs courriers, l'intervention du comité d'hygiène et sécurité de la ville de Saint-Martin-d'Hères, plusieurs interpellations déjà qui ont été effectuées, et sans donner beaucoup de résultats en termes de négociations. Donc une action qui a été imaginée, c'est que les locataires de la montée sont allés faire un pique-nique devant le domicile de Madame Prêtre à Coran. Donc ils ont monté, de quoi faire un pique-nique, des boissons. Il y avait le Dauphiné Libéré qui était là, il y a eu une interview, il y a eu un lâcher de pigeons devant le domicile de Madame Prêtre pour lui montrer que les locataires du 22 Garcia Lorca pouvaient aussi monter jusqu'à Coran et puis discuter avec ses voisins qui étaient très contents et très intéressés par ce qui se passait, par la situation du 22 Garcia Lorca.
Et est-ce qu'elle a réagi, cette propriétaire ?
Donc elle n'était pas là ce jour-là et on l'a appelée par téléphone, on lui a laissé un premier message sur le répondeur et elle a finalement décroché son téléphone en étant étonnée. Elle nous a dit « mais si j'étais là, bien sûr, si vous m'aviez prévenu avant, j'aurais été là, mais là écoutez, vous faites des actions comme ça de manière un peu sauvage, du coup j'étais pas là, je suis désolé, mais effectivement, on va voir pour la suite si on peut se rencontrer ».
Très bien, donc peut-être le champagne pour l'ouverture des négociations prochainement.
Peut-être, mais une actualité qui est tombée cette semaine, c'est que c'était dans les cartons depuis un moment, Madame Prêtre a vendu son immeuble à Pluralis, qui est un autre bailleur social de la région. Donc ça complique un petit peu les négociations à venir sur ce qui est de l'ordre de la responsabilité de la propriétaire et des travaux qui vont pouvoir être effectués par le bailleur qui vient de racheter l'immeuble. À suivre donc.
Mmh. Merci. Marie-France, est-ce que tu veux la main sur cette
interview? Je ne sais pas. Non, on peut continuer sur l'action du CODAS. Donc, on avait déjà évoqué ce problème peut-être là par rapport au CODAS sur le quartier. Donc, le département avait baissé les subventions au CODAS, ou en tout cas avait limité son intervention par rapport notamment aux jeunes de 18-25 ans, en disant que ça n'était plus de leur ressort. Et voilà, donc ce qui faisait une diminution de présence sur le quartier. Et puis on laissait tomber des jeunes au moment où justement il y a tout un travail très long qui se fait avec eux et qui dépasse bien sûr les 18 ans.
Juste, qu'est-ce que c'est le CODAS ?
Donc, le CODAS, c'est le Comité Dauphinois d'Action Socio-Éducative. C'est un organisme associatif, je crois, hein, qui reçoit des subventions en particulier du département pour tout ce qui est l'action socio-éducative. Enfin, ils ont ça concerne les éducateurs de rue pour le quartier, mais ils ont des institutions, enfin, ils ont des internats, je crois, et des foyers pour les jeunes en difficulté. Hein.
Donc effectivement, pour compléter, donc le CODAS, c'est une des associations de prévention spécialisée de l'agglomération. Peut-être vous avez entendu parler des autres qui sont La Paz, notamment
à Fontaine,
à Fontaine et Chirol, Fontaine et Chirol, et puis La Paix à Saint-Martin-d'Air. Et pour compléter, donc effectivement, les problèmes que que les habitants ont pu relever là, suite à la baisse de subvention du conseil départemental, il y avait trois problèmes principaux. C'était un, effectivement, la baisse de l'âge limite d'accompagnement. C'est-à-dire qu'auparavant, les jeunes pouvaient se présenter au bureau du CODAS jusqu'à 25 ans pour demander un accompagnement sur des stages, la recherche d'emploi ou d'autres problématiques plus personnelles, de rupture, de choses comme ça. Et donc, depuis 2 ans, le département a baissé les subventions et a décidé qu'au-dessus de 18 ans, les jeunes ne pouvaient plus avoir accès à l'accompagnement des éducateurs du CODAS. Donc, notamment Yacine, là, qui est un des membres du village olympique bien actif dans l'Alliance citoyenne, qui nous a témoigné ça la dernière fois lors de notre réunion en disant « moi j'y suis allé une première fois quand j'avais 15 ans sur des problématiques scolaires et j'ai été accompagné, je connaissais le CODAS et ça m'a bien aidé à ce moment-là. Et puis j'y suis retourné une deuxième fois à 21-22 ans sur des galères d'emploi et là on m'a dit « oui mais non, dommage, maintenant il n'y a plus l'argent pour t'accompagner, donc va plutôt à la mission locale ou dans d'autres endroits qui sont plutôt éloignés du village olympique et du coup moins pratiques. »
Oui. Du coup, l'Alliance, comment vous allez faire sur cette lutte-là? Comment vous allez organiser les habitants?
Donc, ce qu'on a remarqué à l'Alliance citoyenne, c'est que c'est une problématique qui est ressortie dans tous les quartiers. C'est-à-dire que, en gros, c'est souvent le pendant de cette lutte-là, c'est quand même les problématiques de squat, d'incivilité qui sont perçues par les habitants. Et donc, par rapport à ce problème-là, il y a souvent deux sujets qui sont abordés. Un, la tranquillité publique et tout ce qui est de l'ordre de l'intervention soit des bailleurs sociaux dans les halls, soit des services de la mairie sur ce qui se passe dans la rue ou dans les parcs. Et puis, deuxièmement, il y a qu'est-ce qu'on fait à long terme? Pourquoi ces jeunes sont là dans les halls? Qu'est-ce qui se passe en termes d'accès au travail dans les quartiers, d'accès aux stages, de discrimination dans les collèges, dans les lycées? Et donc là, sur ce deuxième aspect, l'accompagnement, éducatif, socio-éducatif, l'ouverture à d'autres choses qui, notamment proposées par les éducateurs de CODAS, était hyper important. Donc comme c'est ressorti dans plusieurs quartiers, on s'est dit qu'on allait tout de suite faire une bataille à l'échelle interquartier, c'est-à-dire pas seulement au niveau du village olympique ou à Tesserre ou à Saint-Martin-d'Air, mais directement en organisant une première réunion, c'était en février, qui réunissait des membres de tous les quartiers. Parce que, notamment, l'occasion de cette réunion, c'était pour dire que si c'est le département qui avait baissé les subventions il y a 2 ans, désormais, depuis le 1er janvier 2017, oui, c'est la métro qui a récupéré la compétence prévention spécialisée. Donc, c'est la métro qui va, en fait, décider des budgets qui vont être alloués au nombre d'éducateurs et aux missions de l'éducation, de la prévention spécialisée.
Ça donne une chance que les choses puissent changer un peu.
Exactement. Donc c'était une occasion de se dire, tiens, la métro a récupéré, on va tout de suite aller les interpeller pour leur dire que nous, du point de vue des habitants et des membres de l'Alliance citoyenne, on a envie d'un service public de la prévention spécialisée qui soit au moins au niveau de ce qu'il était il y a 2 ans et si possible encore plus mieux. Quoi.
Oui, ce qui était en discussion, c'était la proposition que c'était sur les 18-21 ans. On a parlé, on avait essayé un petit peu l'âge, mais... Il y a une ouverture possible,
voilà,
là aussi.
Donc il y a une ouverture possible, ça reste encore à voir. Ce qu'on a fait pour vous dire l'ordre dans lequel on a avancé, on a fait donc une première réunion pour faire un peu l'état des lieux des problèmes. Tout le monde était d'accord pour se dire c'est pas possible d'avoir une prévention spécialisée qui devient ce qu'elle est aujourd'hui, avec des baisses de moyens, et aussi une intervention qui est seulement aujourd'hui dans les quartiers prioritaires, alors qu'il y a plein de quartiers comme Hoche, comme Beauvert ou d'autres quartiers de l'agglo qui n'ont pas d'éducateurs et dont les jeunes ne peuvent pas profiter de ce service-là. Donc ce qui a été décidé au départ, c'est qu'on manquait quand même d'informations précises sur quel était le point de vue des éducateurs, des personnels aussi, des associations comme le CODAS ou la PAS, et aussi de la métro. On ne savait pas finalement quelle était leur politique. Donc on a envoyé un premier courrier recommandé à Madame Suzanne Daté, qui est l'élue à la métro, qui est référente sur cette question-là, qu'on a rencontrée une première fois, et qui nous a dit, pour une première rencontre, qui était très... très ouverte, on va dire, à la discussion, et qui se positionnait un petit peu en disant nous, on ne connaît pas trop ce champ-là à la métro. Bien sûr, on va faire ce qui est de mieux. On est en train de faire un diagnostic sur la prévention spécialisée, diagnostic qui dure depuis bientôt 6 mois. Et bien sûr, vous comprenez que ce n'est pas moi qui vais décider, c'est l'Assemblée métropolitaine, composée de plus de 150 élus de toute l'agglomération, de toute la métropole.
La métro, oui, c'est beaucoup plus large.
Exactement.
Oui.
Qui comprend maintenant beaucoup plus de communes, qui vont elles aussi avoir envie d'un éducateur, etc. Donc en gros, elle nous a dit, c'est très compliqué, on va voir comment on avance tous ensemble, mais on est ravis de travailler avec vous.
Bon, à voir alors. Alors, on va faire une petite pause musicale et puis on reprend juste après. Donc, le dernier titre de cette émission, Vous, Deitar et Rolar. Chanson interprétée par Elis Regina, très grande chanteuse brésilienne qui commença sa carrière à 11 ans et travailla avec les plus grands artistes brésiliens. Surnommée Ouragan ou Petit Piment, elle était très populaire, ce qui la protégea contre la répression du régime militaire de l'époque qu'elle dénonçait régulièrement. Voilà, on écoute Vous Deitar et Rolar.
Se consolar, que agora não dá mais pé, nem nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, quem levantou pra sair perto do lugar. E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quem te viu e quem te vê? Sou eu pra ficar dando colher de chá. Se eu não tive colher, vou deitar e rolar. Você já entrou na de voltar. Agora fica na tua, que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Quem cai na chuva só tem que se molhar. E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Que venta aqui, é o mesmo que venta lá.
êtes sur l'émission Aura des rues et nous sommes donc en interview avec Antoine Gontier, organisateur à l'Alliance citoyenne. Voilà, donc on était en train de parler des nouvelles du CODAS et des perspectives
pour la prévention.
Pour la prévention. Et puis on a d'autres sujets à aborder. Alors.
Ouais, alors avant d'aborder les autres sujets, je prends juste une minute pour conclure sur la question du CODAS, pour dire que là en ce moment, justement après la première interpellation qu'on a faite à l'élue Madame Daté, la dernière décision qui a été prise en réunion avec les membres, c'est de se dire maintenant il faut que nous-mêmes on fasse une sorte de contre-diagnostic et qu'on aille récupérer des témoignages de jeunes qui ont été suivis par le CODAS ou qui ont maintenant des difficultés à être suivis, de parents aussi qui ont des difficultés et qui aimeraient bien ce service-là qui soit plus étoffé. Et donc je lance un appel aussi, si jamais il y a des auditeurs du village olympique ou d'ailleurs qui ont des expériences à partager sur l'accompagnement des éducateurs en prévention spécialisée, ils peuvent nous contacter pour en discuter.
Voilà. Très bien, merci. On fera passer le message. Et puis sinon, donc c'est quoi les autres sujets phares sur le village olympique ?
Donc il y a un sujet qui est déjà assez ancien, qui est un des sujets phares de l'Alliance citoyenne depuis le départ sur la question du logement et notamment des logements SDH dans le quartier. Parce que donc le village olympique, il y a deux gros bailleurs sociaux qui sont présents, Actis et la SDH. Et Actis, donc c'est des bâtiments qui datent tous à peu près de 68, quoi, de l'année des Jeux Olympiques. Et Actis a rénové complètement son parc, enfin une grosse réhabilitation thermique il y a maintenant plus de 10 ans, je crois, sur donc de l'isolation extérieure, des changements de VMC, des gaines techniques, etc., apportant un vrai plus en termes de confort et une baisse de charge. Et de l'autre côté, pendant ce temps-là, la SDH, qui a un parc équivalent dans le quartier, n'a rien fait, à part quelques interventions d'urgence sur certains appartements au coup par coup. Et donc, une des premières batailles de l'Alliance citoyenne sur le quartier, c'était d'aller interpeller justement la SDH en leur disant y a des problèmes d'isolation, de froid l'hiver, de chaleur l'été, de moisissure, de remontée d'humidité. Il y en a beaucoup dans les bâtiments SDH du village olympique et on vous demande de réhabiliter votre parc rapidement.
C'est prévu, mais à quelle échéance ?
Voilà, donc pour l'instant, les échéances qui nous ont été données, c'est 2024, 2025, 2026, 2027. Donc c'est des échéances qui sont pour l'instant, et en gros ils ne prennent pas beaucoup de risques en annonçant des échéances comme ça, vu le temps de faire les budgets, on sait comment ça se passe. Donc ça ne va pas du tout aux habitants et aux membres de l'Alliance citoyenne qui sont allés donc, plusieurs fois interpeller à Échirol les dirigeants de la SDH, plusieurs articles dans le Dauphiné, plusieurs actions dans ce sens-là. Et aujourd'hui, la bataille s'est un peu tournée dans le sens d'aller chercher d'autres alliés pour faire le poids face à la SDH. Et notamment, on a rencontré la métro, encore une fois, qui de ce côté-là finance en fait les bailleurs sociaux pour faire des réhabilitations thermiques. Et qui, du coup, pourrait être un allié pour aller rappeler à la SDH ses engagements et aussi avec, entre guillemets, la menace de moins les financer ou d'éventuellement plus vérifier ou demander à la SDH de rendre des comptes sur l'argent de la métro qui touche, quoi. Donc voilà, ça, c'est une bataille un peu ancienne qui est en cours. Et là, comme on a compris que ça allait prendre du temps d'obtenir la réhabilitation thermique globale du quartier, on est maintenant sur des batailles au moins en attendant d'avoir des interventions d'urgence dans certains immeubles, dans certains logements qui sont particulièrement touchés par l'humidité avec des conséquences sur la santé des habitants.
Et l'autre point, donc, c'était à propos des centres de santé. On avait reçu ici le docteur Pichon et puis par ailleurs, Radio Kaléidoscope avait fait toute une émission avec des personnels des centres de santé puisqu'ils ont été deux fois en grève, je crois, et c'est pareil par rapport à une baisse de subvention qui a été faite par le conseil départemental. Voilà, donc
effectivement, donc il y avait beaucoup d'habitants du village olympique qui utilisent les services de ce centre de santé. Et donc effectivement, c'est ressorti dans plusieurs réunions ces derniers mois. Et donc on est allé rencontrer les salariés du centre de santé. Dans l'idée de justement faire une coalition entre des usagers qui peuvent être du village olympique, de la Villeneuve ou d'autres quartiers aux alentours et les salariés du centre de santé pour pouvoir peser tous ensemble par rapport à cette baisse de subvention brutale qui a eu lieu de la part du département.
C'était très importante, oui.
Et donc aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est de ce que j'ai compris, là c'est mon collègue Émeric qui est allé à l'Assemblée Générale des salariés du centre de santé en début de semaine. Et donc, il me disait qu'une des revendications possibles, c'était au moins d'étaler les baisses de subventions sur plusieurs années, sur 3 ans au moins, pour pouvoir laisser le temps aux centres de santé de se réorganiser en interne et de trouver d'autres financements, d'autres solutions pour pouvoir poursuivre ces activités.
Oui, et il y a une autre compétence, entre guillemets, l'Assemblée départementale demandait au centre de santé. Il y avait 2 choses, c'est-à-dire s'occuper des gens qui sont au RSA, faire le point avec eux, et puis s'occuper des mineurs, des jeunes migrants mineurs non accompagnés. Voilà.
D'accord.
Moyennant quoi, elle ferait une rallonge de sur les, je crois que c'est 160 000 euros de subventions qu'elle donnait au lieu des 500 et quelques mille qu'il y avait avant. Hein. Et donc,
c'est ça, c'est une baisse de 300 000 euros.
Ah oui, c'est très important, oui, bien sûr. Ça représente des personnels et des... finalement, je pense qu'ils vont prendre la compétence, enfin le travail vis-à-vis des mineurs, des migrants mineurs non accompagnés. Et l'autre, parce que l'autre compétence, donc sur ce qui concerne les gens qui sont au RSA, est déjà prise en compte par une autre association. Donc ça continuerait. Mais ils avaient fait une pétition aussi, hein, qui était, je crois qu'il y avait plus de 4 000 ou 5 000 signatures, donc qui vont sûrement aller remettre avec l'association des usagers des centres de santé. Au département, enfin au conseil départemental.
Tout à fait, parce que d'ailleurs, et c'est une des pistes pour la suite, sur ce qui peut se passer, en tout cas à nous, à l'échelle de l'Alliance citoyenne, il y a plusieurs centres de santé, on va dire, dans plusieurs quartiers de l'agglomération, et c'est des problématiques assez similaires en termes de nécessité d'un côté d'un accès aux soins de proximité, etc.
Oui.
Et puis des baisses de subventions ou des problèmes de fonctionnement qui touchent plusieurs centres de santé. Je pense à Auclin, au vieux centre-ville aussi de Grenoble, qui était touché par ces difficultés.
Il s'occupe beaucoup de prévention et de gens en précarité, oui.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ta présence ici aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Aura des rues sur le site du Crieur de la Villeneuve, www.lecrieur.net, et réécouter cette émission mercredi prochain, vendredi suivant et mercredi encore. Voilà, nous nous retrouverons dans 2 semaines pour une nouvelle émission.
Et puis, peut-être juste un dernier mot, comment contacter l'Alliance citoyenne ?
Donc, vous pouvez m'appeler. Je vous donne mon numéro de téléphone, 06 45 61 45 11, donc Antoine. Ou sinon, l'adresse mail de l'association, contact@alliancecitoyenne.org.
Eh bien, merci beaucoup. Et je souhaite à nos auditeurs un bon week-end.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine.